Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio RDL 103.5 et vous écoutez Coup de théâtre de la Comédie de Colmar. Bonjour Christine.
Bonjour Francis au micro.
Ouais, bonjour Peggy à la régie. Oui. Merci Peggy d'être là. Et ce matin avec Christine, nous rencontrons Pierre Maillet. Pierre Maillet, bonjour. Bonjour.
Oui, alors je ne sais pas s'il faut encore présenter Pierre Maillet aux auditeurs et aux auditrices de RDL 103.5 et de la Comédie de Colmar aussi, puisque Pierre est artiste en résidence, hein, quasiment depuis plusieurs années. Vous l'avez vu dans Une vie d'acteur de Tanguy Viel, dans un spectacle qui était itinérant par les villages et qui a tourné incroyablement.
Il tourne encore,
oui, et qui portait déjà sur le cinéma. Et puis, on l'avait vu aussi dans Théorème de Pasolini. On vous avait vu aussi dans...
Dans le dernier Guiraudy, donc...
L'année dernière. J'en suis là de mes rêveries. Voilà. Et puis même au tout début, je crois, dans Rapport sur moi, le tout premier spectacle d'Émilie et Mathieu.
Oui, c'est presque la famille.
C'est la famille.
Oui, c'est la famille.
Et nous allons donc voir Pierre avec un spectacle qu'il a réalisé, dans lequel il joue, qui s'appelle Edith Bill au Reynaud-Suigny. Et c'est au fond une création à Colmar, d'une certaine
façon. C'est la création à Colmar.
Oui, voilà. Oui. Et ça, c'est quand même très important. Tout le début, il n'y a que des créations. C'est-à-dire, il y a eu de Sous-Amène et puis Edith Bill, c'est la création. Et ça va tourner. Ça va tourner à Angers, ça va tourner au Rond-Point, etc. Donc, c'est très important. Venez voir Edith Bill. Alors, voilà une chose très étonnante, Pierre. L'histoire de deux femmes qui sont la tante et la cousine de Jackie Kennedy Onassis. Et cette histoire est incroyable parce qu'elle se joue près de New York dans un moment qui est celui de la pop culture, celui d'Andy Warhol, etc., etc., que vous connaissez bien, Pierre, puisque vous avez longuement joué la vie de quelqu'un qui connaissait très très bien Andy Warhol et la Factory. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire alors ?
Alors, c'est une histoire incroyable que, heureusement, alors encore une fois, on en revient au cinéma. Moi, j'ai découvert, grâce à un film des frères Maisel qu'on ne connaît pas du tout en France, enfin, très très peu, parce qu'il est très difficile à voir, mais qui a eu un gros succès à sa sortie en 1975. Qui est donc un documentaire qui s'appelle Grey Gardens, qui est le nom de la maison de ces deux femmes. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, donc la mère a 77 ans, la fille en a 50 à peu près. Elles vivent toutes les deux dans une grande maison comme ça au bord de la plage. Et le problème, c'est que on ne sait pas pourquoi, mais en fait, elles ont laissé la maison complètement à l'abandon, tout en vivant dedans. Il y a 28 pièces, elles vivent dans une seule chambre toutes les deux. Il y a des rats qui envahissent la maison.
Des ratons laveurs.
Des oiseaux, des chats. Et elles vivent quand même dans, du coup, un environnement assez, on va dire, insalubre. En tout cas, qui le devient de plus en plus. Et donc, le voisinage a commencé à râler, puisque les rats et les ratons laveurs se sont un peu... ont pris leurs aises, on va dire. Donc, ils ont porté plainte, etc. Et donc, ça a commencé à faire un scandale, parce que, en plus, ce qui est très particulier, c'est qu'elles ne le font pas en se faisant plaindre. C'est une volonté délibérée. Et elles passent leur journée à chanter, à bronzer.
Oui, parce que la mère était une chanteuse.
La mère était
réellement une chanteuse.
Oui, oui. Et la fille a essayé d'être mannequin, etc. Elles sont quand même dans un domaine, on va dire, un petit peu artistique, mais qui n'a pas vraiment...
Qui ne s'est pas épanouie.
La mère était quand même un peu une célébrité. Enfin, elle s'était mariée avec un homme riche.
Et alors ça, c'était
avec lequel elle a divorcé.
Voilà.
Et elle a eu une certaine image, me semble-t-il, dans New York au début du siècle.
Tout à fait, mais qui s'est arrêtée très vite aussi parce que, justement, c'était une femme au foyer, elle avait des enfants, le mari travaillait. Enfin, on est quand même dans les années 30, 40, 50. Donc, où la place de la femme est quand même un peu restreinte, on va dire. Surtout dans ces milieux-là, puisque c'est quand même une espèce de grande bourgeoisie. C'est la famille Bouvier.
Alors, les deux s'appellent Edith. Les deux s'appellent Edith.
Les deux s'appellent Edith.
Oui. Donc, il y a la vieille Edith et la jeune Edith.
Et la jeune Edith, Edith Junior. Mmh. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, ça a fait ce scandale. Jackie Kennedy est venue d'elle-même retaper la maison.
Ah oui, aider au rangement, à au nettoyage.
Voilà. Sauf que, une fois que ça a été retapé, elles ont recommencé à tout laisser à l'abandon. Donc, c'est vraiment délibéré. Et c'est là que les frères Maisel vont les filmer, que le film sort. Et moi, ce que je trouve extrêmement touchant, alors, elles se laissent filmer... sans problème, en fait. C'est aussi une relation qui est très touchante parce que.
C'est en 75. Hein,
c'est donc, 75.
Voilà.
C'est une relation où elles sont très, très proches, très. Mais c'est aussi une relation un peu toxique parce que la fille n'arrête pas de lui reprocher qu'elle n'a pas pu devenir ce qu'elle aurait dû devenir parce qu'elle est venue s'occuper de sa mère. Enfin, c'est une relation mère-fille qui est aussi assez touchante et...
Oui, en même temps, c'est conflictuel et en même temps, on sent une grande tendresse et un
Exactement.
Grand amour l'une pour l'autre. Oui.
Et donc là, le film sort et en fait, c'est ça aussi qu'elles deviennent célèbres parce que le film fait un vrai, vrai succès là-bas. Et grâce à leur chute, on va dire. Et donc, elles sont devenues des icônes, on va dire, même quelque part de... Moi, je trouve qu'elles prennent un peu le relais de la Factory. C'est-à-dire que c'est justement après toute cette époque de la fin des années 60. Et là, d'un coup, c'est presque... Elles sont, j'allais dire, entre les hippies et les punks. Elles sont inclassables, mais en chantant des chansons des années 30, parce qu'en plus, c'est une époque très, très précise. La fille a une façon de s'habiller extrêmement inventive et particulière qui pourrait faire penser à certaines figures de la Factory. Il y a des créateurs comme Marc Jacobs, tout ça, qui s'en sont inspirés pour même faire des
oui,
lignes même, de vêtements.
Oui, même aujourd'hui encore.
Et encore aujourd'hui. Et elles sont même devenues, j'irais, des icônes de la pop culture jusqu'à maintenant, puisque elles sont même sans le vouloir des icônes de la culture queer, par exemple, alors qu'elles ne parlent jamais de ça. Enfin. Et après, la particularité donc, de cette histoire qui est quand même déjà énorme, c'est que deux ans après la sortie du film, la mère décède et la fille, du coup, réalise son rêve, en étant quand même déjà un petit peu connue, de faire son propre cabaret à New York. Donc dans ce lieu qui s'appelle le Reno Sweeney, qui était un lieu apparemment extrêmement important à la fin des années 70-80, et qui justement avait la particularité d'accueillir des personnalités atypiques, puisque ce qu'on sait de son cabaret, c'est qu'il était quand même assez fantasque et à la fois comme elle est, quoi. C'est-à-dire, c'est pas toujours très bien chanté, mais c'est assumé. C'est pas toujours très bien dansé, mais c'est assumé. Elle parlait au public qui, du coup, lui posait des questions. Enfin,
donc, elle a inventé presque le stand-up voilà. À sa manière. Quoi,
mais c'était en 78.
Ça, c'est 78.
Voilà. Mmh. Je prends un peu parce que c'est toute une période. C'est un monde aussi. Et puis, c'est un monde où New York n'est pas le New York d'aujourd'hui.
Ah, pas
quoi.
Du tout.
C'est Village People, c'est tout ça.
C'est tout ça. Et justement, c'est ce qui était apparemment très beau dans ce lieu, c'est que ça mélangeait des personnalités comme Edith Bill, mais aussi des musiciens comme Patti Smith. Dans le public, il y avait Mick Jagger. Enfin, c'était très, très, très mélangé et tout le monde venait un peu
Oui, tous les gens intéressants, quelque sorte,
ouais,
de l'époque, fréquentaient
cet endroit. Ça fait vraiment rêver,
ouais.
Ça fait vraiment rêver. Moi, j'aurais bien aimé y aller.
Oui, vivre donc, à cette époque et pouvoir découvrir ça.
Ouais, cette pop culture comme ça qui était très, très ouverte, en fait, finalement. Et où la particularité de l'art était, comme cette personne, extrêmement touchante, encore une fois, et presque a ouvert la voie à une façon de faire, par exemple, du cabaret qui était très, très particulière, puisque ça mélangeait, en effet, le stand-up, la chanson.
La danse, oui.
Et la danse, voilà. Et donc, le principe du spectacle... Ce serait de recréer quelque part ce cabaret d'Edith Bill qu'on n'a jamais vu, puis il n'y a pas de traces, mais c'est devenu quand même un peu
mythique
aussi, à travers, comme si le cabaret d'Edith Bill était sa façon de raconter ce qui s'est passé pour que, comme des flashbacks, comme ça, mais en spectacle, on va dire, en chanson.
Et donc, c'est la Comédie de Colmar qui deviendra le Reno Sweeney.
Reno Sweeney. Alors, il y a eu le film, mais il y a eu aussi un livre, une pièce déjà écrite par... Donc Sarah Stridsberg, qui est suédoise et qui avait d'ailleurs qui s'intéressait à cette époque et à ces femmes, puisque Sarah Stridsberg avait déjà écrit sur Valérie Solanas, et c'est-à-dire celle qui a tiré sur Andy Warhol, et donc on est toujours dans cette configuration-là. Alors, vous avez en partie réadapté le texte de Sarah Stridsberg.
C'est-à-dire que voilà, ça a été pour moi le déclencheur de me dire bon bah ça y est, là ce spectacle, il faut que je le fasse. Toutes les planètes sont alignées parce que tout ce que je viens de vous raconter du film, du spectacle, et puis je me rends compte que le Reno Sweeney, c'est aussi le lieu où Hollywood Lawn, le spectacle dont vous parliez avant, qui était elle vraiment de la Factory, a fait aussi ses spectacles de manière aussi atypique, parce que c'est un petit peu le même type de
Parce que vous avez vraiment présenté la biographie de... Vous avez incarné la biographie de Hollywood Lawn dans les années 18-19, il me semble, avant la pandémie. C'est un spectacle qui a continué à se jouer
C'est un spectacle qui a continué, qui continue aussi à se jouer.
Qui continue à se jouer.
Et quelque part, je me suis dit, mais c'est assez beau d'imaginer une série de spectacles qui pourraient se passer au Reno Sweeney avec la même équipe, mais où à chaque fois... on présente au public une nouvelle personnalité. Et le spectacle d'avant s'appelait One Night with Hollywood Lawn, et ben là ça va être
Hollywood Lawn, qui est une femme trans,
voilà, la première actrice transgenre,
vraiment transgenre,
qui jouait dans les films de Warhol,
voilà, et dont parle le premier couplet de Lou Reed, de Walk on the Wild Side,
Holly come from Miami from LA,
voilà, c'est ça. Et donc en fait tout cela se regroupe, finalement ça se comprend et c'est presque naturel.
Mais complètement, parce que du coup toute la bande de Holly se retrouve pour accueillir Edith, donc on retrouve la même équipe, mais même si on n'a pas vu le spectacle d'avant, c'est tout à fait... Mais disons qu'on va encore un peu plus loin dans l'incarnation de ce spectacle, c'est pour ça que puisque c'est pour ça que ça s'appelle Reno Sweeney. Et là, en plus, pour la création à Colmar, on investit toute la petite salle du haut.
Ah oui, c'est la petite salle du haut, d'accord.
Voilà, qui est transformée vraiment, pareil, dans ce qu'on imaginerait pour nous être le Reno Sweeney. Donc il y a des guéridons, certainement de quoi boire un verre. Enfin, on est en train de le... Mais oui, l'idée c'est que vous entriez vraiment dans... au Reno Sweeney,
avec
la Comédie de Colmar.
Une jauge réduite, alors.
Du coup, oui, c'est à peu près 80 personnes.
Ça sera plus intime de pouvoir vivre ça.
Et puis, c'est un rapport au jeu qui est très, très particulier, moi, que j'aime énormément, parce que c'est à la fois écrit et pas. Enfin, je veux dire, tout aussi peut arriver. Donc, c'est pas qu'il y a de la place à l'improvisation, mais il y a de la place à l'accident. Le bel accident. Et donc c'est vrai que là vous parliez du texte de Sarah Stridsberg, c'est là où je me suis dit bon ben allez, allons-y, parce que là où c'est différent de Holly, c'est une biographie, je veux dire, au niveau littéraire ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est juste l'histoire qui est comme ça. Là il y a une vraie langue qui est aussi très adaptée à ces femmes, parce que
qui est traduit du suédois,
qui est traduit du suédois par Marianne Segol. Et c'est la première en France. Donc le livre, le texte va aussi paraître chez L'Arche en même temps que la création ici.
Oui, parce que je me disais, il était difficile à trouver le moment, puisqu'il est.
Mais là, il sort.
Bientôt, là.
Il sort pour la première.
Pour la première, c'est super.
Donc on pourrait l'acheter à la Comédie en plus.
Oui, c'est d'accord. Super. Et puis il y a vraiment, dans le texte, vraiment, c'est la relation entre la mère et la fille. Et c'est vraiment étonnant. Parce que vous parliez des problèmes d'hygiène. Enfin, moi, j'ai été frappée en lisant des extraits. Il y a une forme de crudité pour aborder les questions de la féminité aussi, qui paraît extrêmement novatrice de la part de ces femmes à cette époque-là. Et même encore aujourd'hui, d'une certaine manière, je pense qu'il y a peut-être des femmes qui seront un peu choquées de la façon dont elles se parlent de questions tout à fait triviales apparemment. Et en même temps, à travers aussi leur dialogue, il y a cette aspiration à faire de sa propre vie une vie artistique.
Exactement.
Indépendamment à la limite des questions de lieu, même si elles vont réussir en tout cas la plus jeune va réussir à devenir une chanteuse, mais c'est comment on peut transformer sa vie en une vie artistique, soi-même devenir une artiste.
Rapport à la liberté, parce qu'en fait, c'est là où elles sont extrêmement fortes. C'est-à-dire que, alors après, ça passe par des choses très étonnantes parce qu'elles n'expliquent pas pourquoi elles laissent les choses se dégrader. Mais en même temps, c'est extrêmement vivant. C'est-à-dire que du coup, moi, je suis très touchée toujours au lit, était un peu comme ça, par ces figures qui sont politiques sans le savoir.
Ou sans le conscientiser,
ou sans le... Là, c'est très insaisissable, en fait, en vrai, pourquoi elles font ça. Et en même temps, le fond est vraiment ce rapport à la liberté de femmes qui s'émancipent de leur mari, de leurs enfants. Enfin, on parle des hommes, hein, là.
Oui, mais c'est sans doute aussi... Enfin, on peut l'expliquer peut-être par une sorte de réaction, justement, à la domestication. Enfin, la réduction à la domesticité des femmes, et donc ce refus de faire le ménage et de peut correspondre vraiment à une façon d'exprimer une forme de révolte, même s'il existe le syndrome de Diogène aussi.
Et oui, voilà, mais là, c'est même pas ça. Elles
ont mieux à faire.
Elles ne le revendiquent pas et elles ne se plaignent pas, ce qui est quand même au contraire.
Et Edith, en tout cas l'ancienne, Bill Bouvier, chante Tifourtout.
Ouais, c'est la chanson
que nous allons entendre.
Et là, on l'entend par Doris Day.
Doris Day.
Oh, honey, picture me upon your knee, with tea for two and two for tea, just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations. On weekend vacations, we won't have it known, dear, that we own a telephone, dear. Day will break, and I'm gonna wake and start to bake a sugar cake for you to take, for all the boys to see. Happy we will be.
Picture you upon my knee, tea for two and two for tea, me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone. Dear,
day will break, and I'm gonna wake and start to bake a sugar cake for you to take, for all the boys to see.
Vous êtes sur Radio RDL et vous écoutez Coup de théâtre de la Comédie de Colmar. Et ce matin, avec Christine, nous parlons de Edith Bill au Reno Suigny, une création de Pierre Maillet, avec Pierre Maillet, et nous recevons en plus Pierre Maillet ce matin.
Voilà, alors c'est... Bien sûr, c'est un spectacle qui promet énormément puisque la petite salle de la Comédie de Colmar va être transformée en Reno Suigny et nous allons pouvoir vivre à New York dans les années 70 grâce à toute l'équipe de Pierre Maillet. Le spectacle, vous pourrez le voir. Alors, il y a d'ailleurs une représentation supplémentaire vu son succès. Le mardi 4 novembre à 19h, le mercredi 5 novembre à 20h, le jeudi 6 novembre à 19h, le vendredi 7 novembre à 20h et le samedi 8 novembre, toujours un peu plus tôt, à 18h, dans la petite salle, donc en petite jauge. Et c'est ce qui fait aussi qu'il a fallu rajouter encore une séance le mardi 4 novembre à 19h.
Alors Pierre, pour reprendre ce que nous avons dit, il y a donc eu ce film des frères Mills, un film qui raconte la vie dissolue en pleine chute de ces deux femmes, la mère et la fille, Edith Bill. Elles s'appellent toutes les deux Bill, d'ailleurs, l'Edith ancienne et la jeune Edith. Et il y a eu, pour, au fond, leur donner peut-être l'importance qu'elles ont aux États-Unis, parce que finalement, l'Europe les connaît peu. Finalement, très peu, peut-être juste parce qu'elles étaient tantes et cousines de Jackie et Kennedy Onassis, mais la pièce qui a été écrite par une Suédoise qui s'appelle Sarah Stridsberg, qui s'intéressait beaucoup à cette période Village People, du pop art autour d'un nouveau rôle, et il s'agit bien de ça. Alors, juste peut-être, cela se jouera dans le cadre du Reno Suigny, qui était un cabaret plutôt trans, enfin bon, on va le dire comme ça.
C'est le premier cabaret qui a mélangé.
Tous les gens. Voilà, il n'y avait pas de spécificité.
Il y avait toutes les spécificités ensemble.
Voilà, ce Reno Suigny qui sera donc la petite salle, enfin, c'est ainsi que se présentera la petite salle en haut, au théâtre, à la Comédie de Colmar. Alors juste une question, c'est-à-dire que la plupart quand même des personnages sont joués par des gens qu'on connaît bien, qu'on a déjà vu jouer avec vous. Peut-être vous pouvez en parler un peu.
C'est de l'ensemble de l'équipe, oui.
Parce que vous n'êtes pas seul, vous allez jouer qui d'ailleurs ?
Alors bon, je vais jouer la mère.
D'accord.
Voilà, donc, parce qu'en fait, encore une fois, le principe du spectacle, c'est que c'est comme si le cabaret d'Edith, de Petite Edith, il l'appelle comme ça la jeune, c'est Little Edith, était comme une façon de re-raconter son histoire. Donc il y a évidemment la scène, enfin le rapport avec la mère, mais ce que fait Sarah Stridsberg et qui est très très beau, c'est qu'il y a il y a plein de flashbacks, c'est-à-dire qu'on voit le père, donc le mari, on voit les frères, donc les enfants, on voit les amants qui ont pu être aussi quand même des déclencheurs de choix de vie pour elle, de liberté prise, etc. Et donc en fait, dans le principe du spectacle, c'est donc moi qui joue la mère, mais c'est surtout Frédéric Lollier que vous avez déjà vu dans Piscine, notamment.
Une grande collaboratrice des Lucioles aussi.
Et qui jouait la mère dans Théorème, qui fait partie de ma compagnie depuis une trentaine d'années. Donc c'est elle qui joue Petite Edith. Donc en fait, c'est en gros son spectacle. Et quelque part, elle utilise l'équipe de mon spectacle d'avant, Hollywood Lawn, pour jouer les autres. Donc c'est comme si elle nous convoquait comme ça pour pouvoir raconter ses scènes. Donc moi, je joue la mère, puisque la mère est décédée au moment où Edith fait ce spectacle. Donc on sait déjà un peu tout. Et donc, mais il y a le principe de ce spectacle, c'est qu'il y a aussi mon régisseur général, Thomas Nicole, qui joue aussi. Il y a mon créateur son, Guillaume Bosson, qui joue aussi. Il y a Luca Fiorello, qui était aussi dans Théorème, qui est un acteur magnifique et qui est un génie du piano.
Oui, alors donc ça, on l'a entendu, on se rappelle dans Théorème.
Vous voyez Et donc là, et qui joue un peu tous les autres personnages. Voilà, donc les amoureux, les frères, les tous ceux qui construisent ce pourquoi elles sont arrivées là. Et aussi, quand même, Jackie Kennedy, qui va arriver à un moment. Donc, il y a un côté comme ça, un rapport au théâtre, on va dire, transformiste, mais au théâtre tout court. C'est-à-dire qu'on endosse plusieurs personnages, à part Fred, qui est quelque part le centre de tout ça et qui, en gros, mène la soirée, la revue. Et après, nous, on a fait tout un travail, évidemment, de aussi musical, puisque c'est un cabaret. Donc, c'est évidemment l'histoire qui se raconte, mais entrecoupée de... Donc, on a créé un groupe donc de tous ces gens dont je viens de parler, hein, parce qu'on est vraiment 6, on va tout faire, qui va s'appeler les Cowboys électriques. Et donc, on a fait tout un répertoire aussi musical. Alors, évidemment, proche de ce qu'elles pouvaient chanter, elles, les vraies, c'est-à-dire comme T42 que vous venez d'entendre, enfin, des standards un peu... jazz des années 30, de Cole Porter, de toutes ces choses-là, des comédies musicales. Et aussi, nous, on s'est amusé à faire tout un répertoire qui représente, on va dire, l'Amérique, mais qu'on contourne, notamment la country. Ce pourquoi on a appelé ce groupe les Cowboys électriques.
Voilà, c'est ça.
D'ailleurs, en hommage à Robert Redford, qui est...
Qui
nous a inspirés au niveau des costumes.
D'accord, d'accord.
Voilà, en gros, c'est ça qui se passe. Et c'est vrai qu'après, il y a ce, sur justement un peu tout ce qu'on disait de ce qu'elle représente aussi politiquement, etc. C'est très, très fort, je trouve, en plus aujourd'hui, de voir que ce qui était très, très, très réduit, je pense, dans les années 50, sur soit on était la femme d'un grand politicien, comme c'est arrivé à Jackie, hein, soit femme d'avocat, enfin...
Ou d'un financier, ce qui était le cas de Bouvier-Bille, d'après ce que je
oui, exactement, parce que le père est avocat, les enfants sont avocats.
Oui, d'ailleurs, toute une scène où Edith la jeune raconte que son père aurait souhaité qu'elle soit avocate et puis qu'elle, elle n'en avait rien à faire, que ce n'était pas du tout ça qu'elle avait envie de faire.
C'est ça, surtout secrétaire, on va dire.
Oui,
mais dans un bureau d'avocat.
Dans un bureau d'avocat. Et donc, en fait, c'est aussi une peinture des États-Unis. Alors, dans le texte, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il y a quand même, je trouve, des échos d'une certaine façon avec aujourd'hui. Enfin, même si, bien sûr, c'était très différent et puis pour nous, très stimulant, comme vous le disiez, comme s'il y avait une sorte de fantasme des années 70 pour nous. Mais dans ce qu'on entend aussi, la question, justement, du monde des affaires, du monde de la politique, l'exploitation, d'une certaine façon, des femmes. Voilà. Mm-hmm. Et en même temps, la lutte, parce qu'on voit aussi Jackie Kennedy finalement s'imposer d'une certaine manière par rapport à... Parce qu'elles étaient en concurrence toutes les deux dans le texte. Il y a des histoires aussi très intéressantes sur les États-Unis.
On comprend plus ou moins qu'on les a fait rencontrer, les gens qu'il fallait rencontrer à cette époque-là, et que donc Jackie a épousé... le Kennedy, mais Edith aurait dû épouser l'autre.
L'autre qui était pressenti pour devenir vraiment le...
soi-disant était le favori.
Le favori pour devenir
de ce qu'elle dit, hein, parce qu'après...
D'une certaine manière, la pièce de Sarah Strisberg s'appelle... L'art de la chute.
C'est magnifique. Et
au fond, ces gens ont chuté, mais ils ont chuté artistiquement. C'est-à-dire, ils sont chutés dans l'art. Dans l'art de cette période-là. Et c'est ça qui est peut-être intéressant parce que c'est, finalement, on peut chuter et c'est une incroyable liberté.
Exactement.
Et du coup, c'est à la fois la liberté de parole de ces femmes, et c'est le fait d'être libre par rapport à l'ensemble. Bon. Qu'on dit aujourd'hui patriarcale, qui est quand même encore très très important dans ces années-là aux États-Unis, il est redevenu, de toute façon il a toujours été, je crois, dans le fond.
C'était aussi, là, je pense, la pression aux États-Unis de l'ascension, c'est-à-dire quand il s'agit au contraire, comme un self-made man, de se faire et de monter, et là elles ont en quelque sorte sacralisé la chute comme un moment extraordinaire de vie.
Exactement. Ouais. Et politique, justement. Voilà. Ouais.
Bien, donc vous pouvez voir ce spectacle dans la petite salle du 4 au 8 novembre et ça sera vraiment un enchantement et ça vous plaira beaucoup. Vous retrouverez quelque part un élément de liberté qui ne pourra que vous faire plaisir. À bientôt, merci beaucoup Pierre.
Merci à vous.
Et vive le théâtre et le cabaret.